Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.
Comme chaque mois, nous vous proposons de partir à la découverte des acteurs de la protection de l'environnement indinois.
Nous entendons beaucoup parler de l'intelligence artificielle en bien et en mal. À FNE, notre grande préoccupation concerne surtout son impact avec l'environnement. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Bertrand Keller, expert en stratégie transformation numérique, mais aussi bénévole et administrateur à FNE 1, pour faire le point avec lui sur les aspects positifs et négatifs de l'IA dans le domaine de l'environnement. Bonjour Bertrand.
Bonjour. Bonjour.
Alors tout d'abord, peux-tu rapidement nous présenter ton travail d'expert en stratégie de transformation numérique ? En quoi consiste-t-il ?
Alors rapidement, on a un enjeu dans la transformation numérique, donc après c'est transformation numérique, c'est pas quelque chose de forcément clair, mais quand on parle de transformation numérique, à la base il y avait l'idée de dématérialisation des services numériques, donc on va passer de services traditionnellement en papier, téléphonique ou des agences, des guichets dans lesquels on va avoir un contact avec l'administration ou des entreprises. On va matérialiser aujourd'hui la transformation numérique. C'est l'idée que, quelque part, on doit baisser l'impact qui va rentrer dans le cadre des baisses de l'empreinte numérique carbone de la France et de l'Europe et voire du monde. Et donc l'idée, c'est de travailler sur des manières de concevoir et d'utiliser le numérique afin qu'elle soit le plus efficiente possible pour les personnes et le moins impactante au niveau de l'impact de la consommation d'énergie.
Alors, on parle beaucoup du numérique et des émissions de gaz à effet de serre. Quelle est à peu près la part de l'intelligence artificielle dans cette émission des gaz à effet de serre ?
Alors, si je le savais, je vous donnerais exactement le chiffre. Alors, c'est quelque chose qu'il faut savoir dont on n'a pas exactement la teneur. Pourquoi ? Parce que l'IA est quelque chose de nouveau, donc on n'a pas forcément les chiffres. Aujourd'hui, les études qu'on va réaliser aujourd'hui, les études monde vont être basées sur des chiffres 2023, donc on n'a pas forcément les chiffres. Et puis, les personnes qui réalisent l'IA, donc les grandes entreprises, les gens qui ont des décès, ne donnent pas exactement les données pour pouvoir faire les calculs. Aujourd'hui, quand on organise un sommet de l'IA le mois dernier à Paris, il y a un des sujets qui est de créer un standard de calcul pour pouvoir connaître l'impact de l'IA sur la société. Alors, il y a différentes choses qui sont aussi sociales. Mais en tout cas, on n'a pas de standardisation de méthode de calcul pour savoir. Donc, on n'a pas de chiffres exacts pour estimer les gaz à effet de serre de l'IA. En revanche, qu'on arrive à estimer, c'est les impacts à certains endroits, la production, la fabrication, l'usage, etc., et la consommation électrique, principalement. Donc on a une idée de ce serait 1% de la consommation électrique mondiale serait destinée à l'IA, c'est-à-dire, je crois que c'est entre la Finlande et la Norvège au niveau de la consommation. Donc j'ai pas de chiffre exact sur les effets de serre, mais on a un gros travail qui est fait par beaucoup d'experts mondiaux sur les impacts qu'il y a, et on a des estimations des effets de serre de l'IA.
Et par rapport au numérique dans son ensemble ?
Le numérique, quand on fait une étude d'impact du numérique, on estime que c'est à 3 à 4% des gaz à effet de serre, mais pas que, parce qu'il y a plusieurs facteurs d'impact au niveau mondial. Il y a une partie qui est générée par l'IA. Ce qu'il y a, c'est que le numérique, la problématique de ce chiffre en disant 3%, qu'est-ce que ça représente, etc., c'est que c'est un chiffre qui est en progression. Et l'IA à l'intérieur du numérique est en plus forte croissance que le numérique lui-même. Donc il fait partie du numérique, mais encore une part encore plus rapide d'augmentation de l'usage du numérique, et en plus il pollue beaucoup plus. Enfin, quelque part, il a une plus grande intensité dans son intégration et donc dans les impacts qu'il a environnementaux à différents niveaux.
Alors tu nous rappelles que l'IA est gourmande en énergie. Pourquoi c'est le cas ? Pourquoi elle est si gourmande en énergie ?
Elle est si gourmande. Alors ce qui se passe, c'est que quand on va être sur des calculs, alors en termes techniques, on peut différencier ce qu'est un CPU et un GPU. Le CPU, c'est le système, le cerveau que vous avez dans votre ordinateur, c'est la centrale unit, l'unité centrale qui va faire des calculs. Le GPU, c'est pour graphique, donc en fait c'est des puces graphiques. Les puces graphiques, on s'est rendu compte qu'elles étaient bien meilleures pour faire des calculs pour l'IA. Donc elles sont produites par une entreprise NVIDIA en Taïwan, on va y revenir juste après. Et ces puces graphiques, en fait, on est dans un monde, pour donner une image, on est dans un monde en 3D avec multidimensionnel. Donc on est dans des calculs qui sont beaucoup plus intenses, avec des puces beaucoup plus puissantes. Et quand on fait des calculs IA, je vous laisse imaginer, on n'est pas juste dans une réponse à une équation mathématique, l'IA vous répond des choses alors pseudo-intelligente, hein, c'est, vous mettez le mot que vous voulez, mais les calculs pour entraîner l'IA avec des milliards de paramètres est très lourd. Ensuite, quand on va la questionner, on a aussi du calcul qui est très lourd. Et pour cela, on a un dimensionnement de système technique, un data center, un centre de données qui demande beaucoup d'énergie en électricité et en refroidissement avec la consommation d'eau.
Et quelle est l'empreinte environnementale de l'IA ?
L'empreinte environnementale de l'IA, elle est très importante. Alors, l'empreinte environnementale, quand on parle d'empreinte environnementale, on va dire que ce sont les calculs que font les spécialistes du sujet. Il y en a beaucoup en France que je côtoie. Donc, c'est un calcul sur 16 facteurs d'impact. On s'est géré avec des standards ISO on appelle ça des ACV, donc des analyses de cycle de vie. Alors, des fois, c'est trop compliqué, donc on en fait des simplifiés. Et donc, on va calculer de l'ensemble de la vie du produit IA, donc de l'ensemble de ce qu'il faut pour le produire, jusqu'à son utilisation et voir son recyclage. Et donc, la fabrication, c'est des minerais. Donc, c'est des minerais rares qui sont à certains endroits. Il n'y a pas que des minerais rares. Hein. Il y a du cuivre ou des trucs tout à fait communs. Mais tous ces minerais, ils sont en quantité limitée. Il y en a certains qui, dans 10 ans, n'existeront plus. Donc, en fait, on va extraire. Donc, il faut ouvrir des nouvelles mines. On va produire ces GPU, donc ces microprocesseurs à Taïwan. Pour ça, il faudra de l'eau, de l'énergie. À Taïwan, l'énergie, elle est carbonée. Donc, ça fait une grosse empreinte. Il y a besoin d'eau. S'il y a une sécheresse, il y en a déjà eu une en 2021 à Taïwan. En fait, on a une rupture de la production de microprocesseurs. Et ensuite, on a ces fameux data centers. Et donc, quand on investit dans des data centers et qu'on dit on investit tant dans l'IA, en fait, on investit dans l'achat de ces microprocesseurs qui sont faits à Taïwan à 98% par NVIDIA. Et donc, on va construire des data centers qui, il y en aura des petits, il y en aura des très gros. Pour l'IA, on a besoin de très gros qui vont prendre de la place, parfois dans certaines régions du monde. Des terres arabes, dans d'autres on va essayer de prendre les friches, et ils vont se connecter à des ressources en énergie, donc il faudra construire potentiellement des nouvelles centrales, mettre des panneaux photovoltaïques, et consommer de l'eau. Donc elles consomment quasiment la même eau que nous on boit au robinet, que les agriculteurs utilisent, et donc on a un impact qui est important sur ce cycle de vie, quoi.
Est-ce qu'il y aurait des solutions pour réduire cet impact ? Par exemple, l'eau utilisée, faire un circuit fermé, utiliser la chaleur pour des serres, pour du chauffage urbain. Est-ce que c'est envisageable ?
Alors, c'est une grande question de savoir comment on intègre l'IA. Alors, c'est vraiment très compliqué de répondre à cette question parce que là, on installe des data centers avec une génération d'IA, on attend la prochaine génération, mais quand on a la prochaine génération, celle qu'on a installée aujourd'hui, elle sera encore préexistante. On essaye d'installer sur des friches, on se dit qu'on devrait utiliser à raison quelque part l'énergie produite par ces data centers pour faire du chauffage. Mais grosso modo, ce qu'il y a, c'est que pour 2035, on a une estimation qui est de construire 2,5 fois autant de data centers qu'il existe aujourd'hui pour l'IA. Donc une augmentation de la production d'énergie. Et est-ce qu'on peut réduire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est plutôt sur un facteur de 14 à 30% d'augmentation par année d'achat de puces. Donc c'est énorme, on ne sait pas si on va pouvoir les faire. Et pour faire ça, il faut changer le câblage électrique. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des tensions sur l'électricité. Ça se passe déjà en Irlande, puisqu'on a 32% de l'énergie produite en Irlande pour les data centers maintenant qu'il y a IA. Avant, c'était 17%, donc un doublement. Donc, on risque d'avoir, en cas de sécheresse, par exemple, ici en France, ou si on a des data centers, on risque d'avoir un choix à faire entre l'énergie, on la donne à qui. Donc, on a un impact environnemental qu'on peut calculer de façon globale avec des moyennes, mais en tout cas, le jour où il y a un problème de production d'énergie et qu'il faut choisir de tension et d'intensité sur les réseaux et un problème d'eau, à un moment donné, il n'y aura pas de l'eau pour tout le monde. Donc, il faudra choisir si c'est les données ou si c'est les humains. Donc, c'est un peu ça, la question de la réduction, c'est... C'est pas tant le chiffre global et les moyennes, c'est à un moment précis, il faut qu'on continue à vivre.
Et au niveau de l'artificialisation des sols, la construction des data centers, ça représente quelle surface à peu près un data center
Alors j'ai pas les chiffres exacts. Après, on a plusieurs tas de data centers. On a ceux qu'on appelle les hyperscalers. Donc ça va être des très gros data centers qui vont utiliser les très gros modèles de données. Alors c'est ça qu'il faut, on n'a pas le temps de développer ça, mais... On a des très petits modèles qu'on pourrait configurer pour nous-mêmes, pour notre usage, qui ne consomment pas énormément et aller vers ça, qui soient vraiment des aides. Et après, on a les fameux très gros modèles qui s'appellent DeepSeek pour les Chinois, GPT ou les choses de Google. Et eux, ils estiment une consommation à 60 000 fois plus qu'un petit modèle en termes de consommation. Et donc, ces gros data centers ont été discutés pour être installés en France parce qu'on aurait, et on a quelque part, une énergie nucléaire. Bah, c'est assez gros, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est des tailles assez importantes, potentiellement sur les terres agricoles, avec tout ce qui va à côté. Et avec une création d'emplois direct qui n'est pas très importante non plus, donc qui devrait se faire par son usage et pas tant par l'existence du data center. Donc c'est des questions. Après, il y a l'étude à Marseille de la quadrature du net qui évoque un peu ça sur les tensions. Et c'est un sujet compliqué, il ne faut pas s'attacher qu'aux chiffres, même s'ils sont importants.
Et est-ce que l'IA peut avoir des points positifs sur l'environnement ?
Alors, toute technique a des points positifs et des points négatifs. Dire que l'IA n'aurait que des points négatifs, ce serait faux, puisqu'en fait, dans des cas précis, elle peut avoir des points positifs, que bah, ce sont des algorithmes hein, qui, parfois, sur certains sujets, dans la recherche, arrive à travers différents paramètres à réfléchir plus vite que les humains. Si c'est de la recherche fondamentale qui servait à des choses vraiment très intéressantes, bah, on gagne du temps. Donc ça peut aussi aller dans le sens de la réduction des impacts sur l'environnement. En tout cas, l'ONU y croit quelque part aussi pour l'agriculture dans des zones, des territoires pour l'anticipation d'événements climatiques qui permettraient de protéger les récoltes, anticiper des choses. Donc éventuellement, on peut l'envisager. Et ça, il y a vraiment des endroits précis ou des impacts. On sert aussi de l'IA pour décarboner l'industrie. Même si on ne décarbone pas directement l'activité, on peut l'optimiser. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Mais pour installer tout ça, il faut quand même une infrastructure d'objets connectés, etc., qu'il faut maintenir et qui, elle aussi, a un impact. Donc, on a des effets positifs. Et aujourd'hui, en tout cas, la législation mondiale dit qu'on ne peut faire que des IA qu'à condition que les impacts soient positifs. Donc, on y croit. Mais globalement, quand on fait les calculs, au global, on n'y est pas forcément. Quoi.
Merci.
Merci. Si vous souhaitez nous rencontrer les membres de FNE1, n'hésitez pas à nous rejoindre le troisième jeudi de chaque mois pour l'apéro du hérisson. Il a lieu dans nos locaux au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 20 mars à partir de 18h. Retrouvez également toutes nos actualités et notre agenda sur notre site internet fne-1.org.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.